Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol?
Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie.
Vous savez, c'est un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un mot dont on ne sait pas tellement le contenu.
Au fond, il y a des mots en péril, comme il y a des châteaux en péril, et vous êtes parti à leur secours.
Oui.
Alors vous partez pour le Japon?
Voilà, c'est ça.
Vous allez faire quoi là-bas? Un voyage d'agrément ou un voyage d'études?
Non, un voyage d'études, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, oui.
Vous allez étudier quoi?
Eh bien, je pars à Tokyo pour retrouver le professeur Osawa. Je vais entrer dans son école où je vais recevoir l'enseignement du zen macrobiotique.
Du quoi? Du zen macrobiotique?
Du zen macrobiotique. La macrobiotique, c'est l'art du rajeunissement et de la longévité.
Tout ce qu'on pourra dire sur le zen sera, je dirais, forcément à côté du zen. Ça vaut vraiment être très clair. Donc j'y ai réfléchi avant de venir vous voir. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux leur raconter qui ne soit pas à côté du zen? Je ne pourrais rien vous raconter qui ne soit pas à côté. Donc je peux juste donner une direction et voilà. Donc, on le traduit par méditation, parce qu'il faut bien le traduire, mais c'est pas la plus exacte, justement, parce que du coup, elle se croise avec d'autres pratiques méditatives. On pourrait plutôt dire l'absorption. C'est vraiment, donc, le zen est vraiment expérientiel, en fait. Donc, et on pourrait peut-être plus le voir comme un cadre. Un cadre de quoi ? Alors justement, c'est là où on ne peut pas répondre, puisque ça touche à la manifestation du vivant. Ce qui est particulier au zazen, donc on parle, voilà, si on parle de méditation, donc si on parle de zazen, c'est la spécificité fondamentale de cette absorption, de cette contemplation, on va dire, absorption plutôt, eh bien c'est qu'il n'y a aucun but. En général, dans les pratiques méditatives, on se purifie, ou on fait une ouverture du cœur, ou on calme ses obsessions, enfin, que sais-je. On a un objectif.
Il était une fois un philosophe hindou, le Maharishi Mahesh, qui professait le renoncement et la méditation transcendantale pour parvenir à la béatitude. Il était une fois quatre garçons, John, Paul, George et Ringo, les Beatles en un mot, qui, là de leur triomphe et de leur gloire, aspiraient à retrouver la pureté et la simplicité. Ils ont rencontré le Maharishi, ils ont été conquis et ils l'ont rejoint avec leurs épouses dans sa retraite de Rishikesh au Cachemire. Qu'on se rassure, cette vie monastique n'aura qu'un temps, ils veulent simplement retrouver leur équilibre. Un stage qui peut les conduire tout droit chez les hippies.
J'étais dans une période un petit peu bloquée émotionnellement, moralement, professionnellement. J'avais été au Japon et j'avais ouvert le bureau du court-métrage au Japon, j'étais revenue et je cherchais à me réintégrer et je n'y arrivais pas et donc j'étais complètement bloquée, assaillie par toutes mes priorités. Et j'avais vu qu'il y avait un dojo de méditation à côté. Et bien qu'au Japon, j'y avais jamais été, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Et j'y suis allée, j'ai trouvé ça vraiment idiot. Alors, je n'ai pas eu du tout de problème avec la posture parce que ma maman a été prof de yoga. Donc, depuis toute petite, j'étais finalement par terre à faire des lotus. Donc, aucun problème avec la posture. Mais en fait, on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait juste m'asseoir. Il n'y a pas eu de parole. Et puis, c'était terminé. Donc, je trouvais ça complètement con.
Si tu rencontres le Bouddha, tue-le.
Tue le Bouddha.
La voix qui est la voix n'est pas la voix.
Le nom qui est le nom n'est pas le nom.
Des années après, 7 ou 8 ans après, je me retrouve au Japon. Là, je m'y installe pour ouvrir un bureau du court-métrage. Et sauf que je m'aperçois en ayant déménagé, le visa, tout ce qu'on veut, que je ne parle pas encore très bien japonais. Je me retrouve devant la même chose, devant un mur de priorités. Et puis là, en japonais, et toute seule, donc l'angoisse totale, hop, ça recommence. Et donc je m'étais rappelé de cette expérience. Chose étrange, et je ne sais pas pourquoi, j'avais acheté quand même un zafu, donc un coussin, à cette boutique, sur lequel je ne m'étais jamais assise, et je l'avais emmené avec moi, ce qui est quand même très bizarre. Donc, je vais chercher ce coussin, et je m'assois. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et au bout de 6 mois, j'ai quand même réalisé que j'étais un peu au Japon, et que c'était un peu le pays du zen, et que c'était un peu idiot de m'asseoir toute seule dans mon coin. Et par l'entremise de quelqu'un, très simplement, je me suis retrouvée dans le temple de formation Soto, de l'école Soto, où donc une fois par semaine on pouvait s'asseoir dans le dojo des moines avec une équipe de moines qui nous accueillait, où on faisait 2 fois zazen, et puis il y avait ce qu'on appelle un petit teisho, et là mon japonais avait commencé un peu à ça allait mieux, donc je comprenais pas tout, mais je comprenais, je pense, ce que je devais comprendre. Et puis après, très vite, j'ai fait les retraites, et c'est là aussi que j'ai découvert toute l'articulation, tout le déploiement de la pratique dans l'assise, mais aussi dans les chants, dans les sutras, et puis surtout ce qui m'a ensuite, moi, passionné dans la cuisine, dans les repas. Voilà.
Moi, je suis arrivé à la méditation par une amie qui m'a conseillé, après qu'elle l'ait fait, un stage de méditation de 10 jours, un stage de méditation dans la tradition Vipassana. Et donc, où pendant 10 jours, on médite jusqu'à 12 heures par jour. Donc, moi, j'ai commencé à méditer d'une certaine manière par la pratique la plus exigeante, mais ce qui permet aussi de voir quels en sont les bienfaits en profondeur et directement. Et je crois qu'il y a beaucoup de pratiques différentes qui existent, et que c'est à chacun aussi en fonction de sa personnalité, de son envie, de son besoin, de se diriger vers telle ou telle pratique de méditation.
D'accord, et du coup, la tradition Vipassana, c'est lié au yoga, non, c'est ça ?
Non, c'est pas lié au yoga, en fait. Vous avez beaucoup de traditions en méditation. Il y en a une qui s'est beaucoup développée par l'intermédiaire d'un sage, Guenka, qui donc lui a développé tout un réseau de centres de méditation dans le monde entier. Et donc il y a un centre en France, et donc la méditation s'appelle la méditation Vipassana.
D'accord. Et au moment où vous avez commencé ça, vous aviez des attentes par rapport aux effets que ça pouvait produire dans votre vie? Je ne sais pas à quel moment.
Non,
c'était...
aucune attente, et c'était ça, je crois, ma chance. c'est d'ailleurs une des leçons de la méditation, c'est qu'il ne faut avoir aucune attente. Et c'est ce qui permet de faire fonctionner cette pratique. C'est une pratique qui a énormément de bienfaits, mais je ne pourrais pas les détailler. En plus, ce sont des bienfaits qui sont personnels. Mais c'est vrai que par contre, je pense que déjà la première chose, c'est que ça permet de prendre conscience de la force qu'on peut avoir en nous-mêmes en pratiquant un exercice tout simple qui est la concentration sur la respiration, et de voir comment est-ce que notre corps va se rééquilibrer grâce à des exercices que tout le monde peut pratiquer à n'importe quel moment de la journée, et parfois sur des durées très courtes. Cela peut être déjà très utile.
Je vous propose juste quelques minutes de s'installer en zazen. Et en fait, zazen, à la base, c'est une posture. Alors, mais c'est une posture qui se réveille d'elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à construire la posture. A priori, c'est le dos droit, c'est la colonne droite. Mais le problème, c'est que quand on dit ça, et si on essaye d'atteindre un dos droit, la réalité de notre colonne, qui de toute façon n'est pas droite, et l'image mentale que l'on a d'un dos droit, fait qu'on va être à côté. Et là, en fait, au gros, on a rien à faire. Surtout rien à faire. On peut laisser les yeux mi-ouverts. Ils vont tomber naturellement à peu près à 45 degrés. Et on ferme la bouche. Le menton, naturellement, en fonction de la posture du bassin qui va accueillir la colonne, naturellement, il va se rapprocher un petit peu de notre poitrine. Et en fait, voilà, on se laisse faire. Alors, se laisser le faire, ça veut dire, voilà, rentrer dans cette absorption. C'est un peu comme si on devenait un grand bol vide. Hein. Ça peut être le bol... c'est le même bol vide que les moines utilisent quand ils font la mendicité. Voilà, on se met dans la posture du mendiant avec son bol vide et on reçoit, en fait. Et on reçoit, mais on ne garde pas. Donc, que ce soit les sons, les pensées, on se laisse traverser.
La tradition veut que tout en buvant la rituelle tasse de thé, l'abbé pose quelques questions et donne à résoudre des énigmes appelées koan. En voici une que je livre à votre méditation. Un proverbe chinois dit « On ne peut pas battre des mains avec une seule main. Quel bruit fait une seule main qui bat ?» Eh bien, il n'y a pas, vous vous en doutez, de réponse valable à ce koan. Ce genre d'énigme correspond à une sorte de traitement choc et a pour but, je crois, de rompre le cours normal de la pensée logique et de détruire le raisonnement. Les adeptes du zen croient en une vérité que l'on atteint par intuition et d'où la raison est exclue.
Parce que je crois que c'est avec Delphine Bateau que vous avez eu l'idée de créer un groupe méditation à l'Assemblée nationale.
C'est venu en fait de l'expérience britannique. Les députés britanniques ont lancé il y a une dizaine d'années une initiative qui s'appelle Mindful Nation et donc qui visait à ce que la pratique de la méditation se répandent dans quatre domaines parce que elles avaient des bienfaits dans ces domaines-là. Les quatre domaines, c'est l'éducation, le travail, la prison et puis évidemment la santé.
Moi, des fois, je fais ce que j'appelle la pratique de l'ouverture du cœur. Donc, c'est pas zazen. J'ouvre mon cœur pour quelqu'un ou des gens ou des animaux, beaucoup, je le fais pour les abattoirs. Etc. C'est pas zazen, hein, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. On a tendance aussi, ça m'agace beaucoup, à opposer bouddhisme, donc zen et par exemple pleine conscience, comme si l'un était religieux et l'autre laïque. Elle est pas là la différence. Les deux sont religieux dans le sens étymologique premier. C'est-à-dire le religere. Les deux sont faits, parce que même dans le développement personnel, quand vous suggérez à quelqu'un de calmer les pensées, de, bien évidemment, sans, même si ce n'est pas l'intention première, il va se retrouver dans une certaine reliance avec ce qu'il a autour de lui.
Mais la pratique elle-même, elle est très abordable. Puisque tu es allé te fermer les yeux, même pas d'ailleurs, ça dépend des pratiques, elle est en tout cas de se concentrer sur un objet... qui permet de concentrer l'esprit et ce que nous avons tous de manière universelle, c'est la respiration et donc c'est souvent comme ça qu'on commence. Mais voilà, donc dès qu'en fait votre esprit essaye de se poser, en fait c'est justement là où ça devient intéressant, essaye de se poser sur la respiration, c'est là où vous allez voir tout ce qui se passe, tout ce qui va émerger en vous, dans votre esprit. Et c'est là où vous avez commencé à voir que c'est en effet difficile de rester concentré sur sa respiration. C'est ça qui devient difficile, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est que dans la pratique, on voit que quelque chose de très simple, qui serait de se concentrer sur sa respiration, devient très vite très difficile. Et c'est là où le processus commence.
Voilà. C'est pas la même pratique parce que ça n'a pas la même fonction. Et je pense quand même que la pratique du zen, elle est quand même assez radicale. Et on n'y arrive pas forcément. C'est pas forcément la bonne pratique. Pour tout le monde, pas forcément à ce moment-là, parce que c'est très radical. Hein. C'est tout le temps, on coupe toutes les illusions, on casse, on déconstruit. Voilà, il faut avoir envie de ça, et puis il faut que ça soit juste pour soi.
Contrairement à de nombreux prêtres et moines bouddhistes, les adeptes du zen travaillent. La première règle de leur vie monastique est « Une journée sans travail est une journée sans nourriture ». Le fondateur de l'ordre zen, au Japon, au XIIIe siècle, fut un homme remarquable. Il disait volontiers « Je ne me crois pas suffisamment de qualité pour mériter le service des autres ». Ou encore « Si je ne travaille pas moi-même, je n'ai pas le droit de manger ».
J'ai lu le Tenzo Kyokun, Instruction en cuisine zen, et j'ai lu le Ehei Shingi, qui est le code monastique des moines. Les deux sont très intéressants puisque, et très particuliers au zen, puisque ce sont des instructions quasi logistiques. Même s'il y a effectivement, c'est très profond ces textes, hein, mais derrière le c'est-à-dire que l'extraordinaire, on va dire ce que d'autres vont pointer directement comme ésotérique, comme divin, se niche dans le zen, dans le très très ordinaire.
Avant chaque repas, les moines récitent les grâces. Écoutez celle du repas de midi. Un repas est offert à Bouddha et à la fraternité des moines. Puissent toutes créatures vivantes avoir également leur part des offrandes de nourriture. À tour de rôle, ils préparent les repas, font la vaisselle avec la même application que s'ils accomplissaient une tâche noble et délicate.
C'est autour de la communauté aussi, là, bien évidemment, le zen. C'est vraiment protocoliser le vivre ensemble, car c'est, je parlais de l'identité au départ, on se rend compte que l'on n'existe pas en soi. C'est-à-dire que ceux qui ne mangent pas ou qui ne sont pas en zazen pendant le repas pratiquent de la même manière. Justement, grâce à toute cette codification, on est un grand corps qui mange. Donc, on attend que tout le monde ait fini. Et en fait, ceux qui se servent trop, c'est ceux qu'on attend. Donc, ils ont super mal. Et puis, en plus, ils ont plus faim depuis très longtemps. Et donc, c'est sur ça nous fait travailler sur notre avidité, sur notre peur de pas avoir ce dont on a besoin. Ça nous fait travailler sur le besoin. Mais tout ça, par l'expérience, pas par le mental.
Zen n'est pas pour ceux qui ont des bobos, n'est pas pour les tièdes, ni pour les curieux, ni pour les bâtisseurs de systèmes. Le zen nous invite à descendre dans l'arène pour le jeu radical de la vie et de la mort.
Avant tout, un bienfait pour l'individu, ou est-ce qu'on cherche à la fin quelque chose de plus grand que ça? C'est ça la question que je pose. Et je pense qu'il faut avant tout chercher la concentration de l'individu. Si ça lui apporte quelque chose personnellement, très bien et tant mieux. Mais il faudrait faire très attention avec l'idée de dire qu'on utiliserait cet outil pour que, je sais pas, il y ait transformation des individus ou une transformation de la société. Ça, je pense que c'est donner une ambition beaucoup trop grande à une pratique qui doit rester... une pratique avant tout où chacun est en rapport avec elle individuellement. Ce que dit le bouddhisme, c'est que la méditation, la pratique de la méditation, permet d'atteindre l'éveil. L'éveil personnel. Et donc, on voit bien que c'est plus, encore une fois, un sujet d'accomplissement personnel, ou en tout cas de transformation et de chemin personnel, plutôt qu'un objectif politique.
En tous les cas, les méditations les plus connues sont plus, on va dire, de l'ordre du développement personnel. Donc, effectivement, il n'y a pas cette notion communautaire. Elle est fondamentale au bouddhisme, puisque, en fait, on dit toujours Bouddha, Dharma, Sangha. Bouddha, c'est notre nature de éveillée, hein, notre nature réveillée, je dirais. Dharma, on pourrait... Il y a des centaines de milliers de livres, hein, mais... Allez, à la hache. La réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, et Sangha. Et elles sont interactives. C'est-à-dire qu'il y a communauté. D'accord. Et elles sont interactives, et on a tendance, y compris là pour le coup aussi dans le bouddhisme, puisque on ne vit pas en monastère, on ne vit pas en communauté, on est en communauté que de manière très temporaire, y compris dans le bouddhisme, on a tendance à oublier que. Notre nature réveillée, elle dépend aussi de... C'est une activation, c'est interdépendant ces trois. C'est Bouddha, Dharma, Sangha. Et là, depuis peu, on commence à croiser avec, bien évidemment, l'écologie, et que l'écologie, là, est en train de rencontrer le spirituel. Et alors là, c'est clair que le zen, il se pose là. Hein. Parce que justement, grâce à cette capacité de ne pas vouloir atteindre un but, donc on casse pas mal aussi les égos qui tuent la plupart des communautés, et aussi, surtout, on fait la place à cette réalité telle qu'elle est. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer, ça pourrait être un peu l'adaptation du cadre monastique au cadre séculier. Donc c'est peut-être le nouveau paradigme, il est peut-être là, c'est ramener ramener le religieux, le religérer, la reliance dans notre manière de nous percevoir. Et forcément, si on se perçoit en interdépendance, les sociétés qu'on va construire seront du nouveau paradigme, seront différentes.
Puissent ces contemplatifs trouver dans la pratique de leur rite zen, sinon la vérité, le moyen de parvenir au bonheur, but suprême de tous les hommes. Listen, karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.